Les podcasts du Collège de France, biologie.
Je n'avais pas eu le temps, lors de la dernière leçon, de tirer quelques rapides conclusions sur les différentes leçons que j'avais consacrées à la figuration totémique. Aussi, avant de reprendre le cours de cette leçon, et qui sera consacré aujourd'hui dans les leçons suivantes à la figuration naturaliste, je voudrais dire quelques mots de conclusion, même si 15 jours se sont écoulés entre la dernière leçon et aujourd'hui, sur la figuration totémique. L'iconographie du désert central, que nous avons vu lors de la dernière leçon, donne donc à voir, vous en souvenez, un mouvement sur une surface analogue à celui accompli par un être du rêve, un mouvement qui restitue les conditions originaires de mise en ordre du monde, mais qui n'influe pas directement sur ce monde, dont la structuration immuable est déjà donnée depuis longtemps. Donc dans cette tradition du désert central, comme dans celle de la terre d'Arnhem que nous avons vue auparavant, dans la partie orientale, il s'agit de rendre présente une structure accomplie et que plus rien ne peut modifier, soit en reproduisant les moments clés de sa genèse et les événements qui ont permis que cette structure s'inscrive sur la surface de la Terre, soit en figurant l'arrangement interne de ceux qui ont engendré cette structure en leur offrant en quelque sorte leur anatomie en modèle de l'organisation totémique. Les deux pôles de cette alternative sont donc, on l'a bien vu, représentés par la tradition iconographique du désert central d'un côté, par celle de la partie occidentale de la terre d'Arnhem de l'autre. Dans le premier cas, dans le désert central, comme on l'a bien vu dans l'iconographie des Warlbiri et des Pintupi, on a un fond sans figure, des traces d'action dont les actants ont disparu. Dans l'autre, dans l'iconographie Kunwishku en particulier, on a des figures sans fond, des actants désormais inactifs, représentés à l'époque où ils englobaient encore en eux ce qui fait la diversité des existants. Donc il s'agit là de deux stratégies contrastées pour figurer l'ordre totémique, soit représenter l'ordre incorporé dans les lieux, les agents de la genèse n'existant plus que dans les empreintes au moyen desquels ils ont fait advenir le monde présent, soit représenter l'ordre incorporé dans les êtres, ceci étant vu comme les enveloppes contenant chacune en puissance une partie de la structure du monde. Les Yolngu de la partie orientale de la terre d'Arnhem, par qui j'avais commencé cette série de leçons sur le totémisme, opèrent une synthèse de ces deux formules, puisqu'ils donnent à voir comment l'ordre totémique s'actualise par l'événement, en figurant des récits étiologiques où sont présentés à la fois des prototypes totémiques et des traces de leur action. Pour paraphraser la formule de Howard Murphy, une peinture Yolngu, c'est du comportement ancestral emmagasiné. On pourrait dire ici, c'est du comportement ancestral en train de s'actualiser dans une structure. Alors, la différence, ou les différences entre la figuration totémique et la mise en image des ontologies animistes et naturalistes deviennent ainsi, me semble-t-il, patents. Mettre en évidence l'identité des sens et de substances, pour employer des termes qui nous sont propres, des membres humains et non humains d'une classe totémique, en renvoyant la genèse de cette identité à un prototype originaire fusionné avec un lieu, contraste par exemple, très nettement, avec ce qu'accomplit la figuration animique, à savoir mettre en avant l'intériorité, disons humanoïde, des non-humains, tout en signalant sans équivoque leur physicalité liée à leur appartenance à une espèce. De même que cela contraste nettement avec l'ambition du naturalisme, que nous allons voir plus en détail bientôt, de donner à voir l'intériorité des sols humains, tout en situant celle-ci dans un espace homogène, où la continuité physique entre tous les existants devient perceptible. De même, figurer par les moyens que nous avons examinés lors de ces leçons la permanence dans le temps des prototypes totémiques, le caractère immuable de leurs traits structuraux et les résultats de leur action incorporée dans des traits de l'environnement diffèrent grandement de la façon dont les autres modes d'identification s'incarnent dans des images. Cette recherche de la permanence contraste notamment avec ce que l'animisme s'efforce de donner à voir dans les masques articulés, par exemple, ou même dans les masques simples du type de ceux que nous avons examinés, les masques Yupik, à savoir le basculement de point de vue qui s'opère entre humains et non-humains, allant jusqu'à la métamorphose, autrement dit, un mouvement rapide s'accomplissant dans le temps présent, par opposition, par contraste, avec une structure statique, dans le cas de la figuration totémique, renvoyant aux origines du monde. Et évidemment, ceci contraste aussi avec ce que le naturalisme cherche à rendre présent dans les images, c'est-à-dire la diversité des individualités humaines et leur saisie réaliste aux divers âges de la vie, combinée à l'homogénéité de l'espace et des objets qu'il contient. Et donc la diversité des expressions phénoménales de l'intériorité humaine s'oppose ainsi à l'unité et à l'immutabilité des prototypes totémiques, tandis que la continuité matérielle des objets du monde, qui est mise en évidence dans la figuration naturaliste, s'oppose à la singularité des sites engendrés par les êtres du rêve. Donc nous allons maintenant précisément voir plus en détail cette question de la figuration naturaliste auquel je vais consacrer les séances, enfin les leçons qui viennent. Historiquement, l'ontologie naturaliste commence à s'ossifier à partir du XVIIe siècle en Europe pour ne prendre une forme véritablement achevée que dans le courant du XIXe siècle avec l'avènement de la notion de culture et des sciences qui s'en occupent. Durant cette période, une perception du monde assoit peu à peu son emprise en s'appuyant sur deux principes complémentaires qui sont les éléments de définition du naturalisme, tel que je l'entends en tout cas, comme en tant qu'ontologie ou que système d'inférence, à savoir d'une part que les humains se dissocient nettement et en bloc du reste des existants en raison des aptitudes cognitives que leur intériorité singulière est réputée leur conférer. D'autre part, qu'ils sont, ces humains, néanmoins, reliés à tous les autres occupants du monde du fait de leur composante physique qui dépend de lois universelles applicables à tous. Donc la formule du naturalisme, elle est inverse, je l'ai souligné maintes fois, de celle de l'animisme. Ce n'est pas par leur corps, mais par leur esprit que les humains se différencient des non-humains, comme c'est aussi par leur esprit qu'ils se différencient entre eux par paquet, par agrégat, grâce à la diversité des réalisations que leur intériorité autorise lorsqu'elles s'expriment dans des langues et dans des cultures distinctes. Quant au corps, ils sont tous soumis au même décret inexorable de la nature et ne permettent donc pas de singulariser de façon absolue par des genres de vie, comme c'était le cas dans l'animisme. Alors, j'ai bien conscience de l'extrême témérité dont je fais preuve, n'étant en outre pas historien de l'art, en proposant l'hypothèse que le naturalisme ainsi entendu dans toute son envergure temporelle correspondrait à un seul et même régime figuratif. Car au sein de ce que l'on appelle conventionnellement l'art figuratif moderne, disons, pour aller vite, de Lorenzetti jusqu'au début du XXe siècle, l'histoire de l'art s'est au contraire attachée, depuis ses débuts, à distinguer des écoles, des genres, des traditions nationales, des styles, aboutissant à une segmentation et à un raffinement taxinomique, sans doute très utile, mais qui me paraissent, avec le regard éloigné de l'anthropologue, qui me paraissent obscurcir peut-être derrière la patine érudite des généalogies, des emprunts, des ruptures, l'absolue singularité de cette manière de dépeindre dont l'Europe s'est fait une spécialité durant à peu près 6 siècles et qui ne prend tout son relief qu'au regard, évidemment, des images qui furent produites avant ou ailleurs dans le monde. Il faut prendre garde néanmoins que la figuration n'est pas la simple transcription dans des images d'une ontologie qui préexisterait à ces images, qui se serait développée avant elles, à leur écart, en faisant appel à des ressources purement conceptuelles, purement réflexives, qui s'exprimeraient avant tout dans des systèmes discursifs tels que la science, le mythe, la mythologie implicite des rituels, la philosophie, les doctrines religieuses, etc. C'est dans tous les domaines de la vie que les modes d'identification opèrent leur travail de discrimination ontologique, de discrimination entre les êtres au moyen d'une schématisation cognitive de l'expérience. Et on les repère sans doute, c'est le travail de base des ethnologues et des historiens, et parce que c'est là qu'ils sont le plus aisément détectables, dans certaines classes d'énoncés normatifs et dans des propositions plus ou moins formalisées. Mais ces schèmes sont aussi présents dans des modes d'action sur la matière vivante et ou inorganique, dans les techniques matérielles et symboliques, dans les formes de comportement individuel et collectif, et bien sûr dans la façon de faire des images. Or, chacun de ces domaines de la pratique, possédant sa propre logique de transmission et donc son taux spécifique de mutation, ceci signifie que les symptômes d'un changement d'ontologie n'apparaissent pas nécessairement de façon simultanée dans chacun de ces domaines. Autrement dit, tout indique que finalement, c'est ce qui s'est passé dans ce qui fut certainement le mieux documenté de tous les processus de transition entre deux ontologies, à savoir lorsque l'analogisme a peu à peu accouché du naturalisme. Il semble en effet que le monde nouveau a commencé d'abord à prendre corps dans les images. Et cela, près de 2 siècles avant d'être l'objet de discours publics, de discours réflexifs. Si on admet en effet que, comme je l'avance, les deux traits caractéristiques qu'une figuration de l'ontologie naturaliste doit objectiver sont l'intériorité distinctive de chaque humain et la continuité physique des êtres et des choses dans un espace homogène, alors il ne fait guère de doute que ces deux objectifs ont reçu un début de réalisation dans la peinture flamande dès le XVe siècle, c'est-à-dire bien avant que les bouleversements scientifiques et les théories philosophiques de l'âge classique ne leur donnent la forme argumentée qui signale habituellement l'émergence de la période moderne pour les historiens des idées. Bref, la combinaison de la peinture de l'âme et de l'imitation de la nature, pour reprendre des désignations conventionnelles de ces deux finalités figuratives de l'ontologie naturaliste, a précédé de beaucoup les exposés dogmatiques d'un Bacon, d'un Galilée, d'un Descartes, justifiant l'existence d'un monde physique découplé de la subjectivité humaine. Alors, il n'est pas question dans ces leçons de donner plus que quelques indications, malheureusement, à propos de ce processus sur lequel les historiens de l'art ont écrit des bibliothèques entières. Je rappellerai donc que, à la fin du XIVe siècle, et surtout au XVe siècle, en Bourgogne et en Flandre, une nouvelle façon de peindre commence à gagner droit de cité, qu'on a quelques peines à définir, qu'on ne peut pas véritablement qualifier d'art de la Renaissance, car elle n'est pas liée à la redécouverte de canons antiques, comme ce fut le cas en Italie. Elle dépend plutôt d'un phénomène tout à fait étonnant, qui est l'irruption de la figuration de l'individu. Et c'est d'abord dans les enluminures que ce nouveau schème figuratif se manifeste, notamment dans l'un des très grands chefs-d'œuvre du genre, qui est très connu bien sûr, c'est Les Très Belles Heures du duc de Berry, composé au cours d'une soixantaine d'années par quatre équipes successives d'enlumineurs, dont les frères Limbourg et Jan van Eyck. Et l'une des images les plus spectaculaires de cet ouvrage, j'avais eu l'occasion de la présenter déjà, elle est très connue, est celle qui est exécutée vers 1404-1405 par Paul de Limbourg pour illustrer le mois d'octobre, image dans laquelle le grand spécialiste des enluminures européennes, Millard Meiss, voit ce qu'il appelle un véritable tournant de la peinture européenne. Alors, en effet, qu'est-ce qu'on voit dans cette image ? Non plus, comme c'était le cas dans l'art médiéval, des êtres et des choses qui sont employés comme des allégories, renvoyant à autre chose qu'eux, non plus des essences incorporées de façon conjoncturelle dans des personnages ou dans des plantes ou dans des animaux, à des fins d'édification ou de célébration, non plus des symboles d'un ordre divin destinés à illustrer le sens qu'il faut donner au monde, mais des personnes au trait réaliste, dépeintes dans un cadre tout à fait réaliste, en train d'effectuer des activités elles-mêmes tout à fait réalistes. Donc c'est octobre, et chacun vaque ici aux occupations de ce mois, fidèlement ces occupations, fidèlement représentées pour elles-mêmes, et non comme l'expression d'un dessein qui leur serait extérieur. Le laboureur passe la herse, parce que c'est le temps de le faire. L'épi picore, malgré la proximité de l'épouvantail, qui ne paraît pas leur faire peur, car c'est leur nature de pie de picorer. Les promeneurs au pied des murailles du château, c'est le château du Louvre, hein, c'est un château du Louvre dans une de ses versions bien évidemment antérieures, et c'est, semble-t-il, une représentation très fidèle de la façon dont il était agencé. Les promeneurs au pied du château devisent en regardant la rivière, parce qu'il fait encore beau et parce qu'ils s'apprécient mutuellement, on voit d'ailleurs leur ombre, leur reflet en tout cas, dans l'eau. Aucun d'entre eux n'est figuré comme une voie d'accès vers autre chose, vers un intelligible supérieur. Ils sont simplement visibles parce qu'ils méritent d'être observés et dépeints en eux-mêmes de façon littérale, comme une petite portion d'un grand monde devenu autonome. Désormais, et sans doute pour la première fois dans les arts visuels de l'Occident, la peinture sert tout simplement à montrer ce qui se voit et non ce que l'on doit savoir, ce que l'on doit espérer, ce que l'on doit comprendre, ce que l'on doit craindre, etc. Bref, le réalisme qui commence peu à peu à s'imposer dans certaines enluminures du début du XVe siècle consiste avant tout à montrer l'objet tel qu'on le voit, c'est-à-dire notamment en restituant toutes les facettes de son individualité. Il faut que ses caractéristiques propres deviennent reconnaissables, mais aussi les qualités additionnelles que lui donne le fait d'être saisi en un lieu et en un moment particulier. Donc les personnages portent des habits qui correspondent à l'époque de l'année et à leurs conditions. L'heure de la journée est nettement indiquée par la lumière, par les ombres. Le château reproduit exactement le Louvre tel qu'il existait à l'époque. La semeuse laisse des traces sur le sol. dans le sol meuble qui vient d'être hercé. Son geste inachevé de la main a laissé même quelques graines immobiles suspendues en l'air. Et donc dans cette image, tout à fait remarquable, humains et non-humains ont cessé d'être des essences intemporelles, ils sont seulement fixés dans un instantané qui a suspendu le cours du temps. Comme l'écrit Todorov à propos de l'art de Paul de Limbourg, je le cite, « Le réalisme n'est pas la disparition du sens au-delà de l'image, il implique plutôt que les associations par ressemblance soient progressivement évincées par des associations de contiguïté. » Et on ne saurait définir de façon plus heureuse le passage d'une physicalité analogique fondée sur la discontinuité des essences et la continuité des ressemblances, à une physicalité naturaliste où prime une double continuité, celle d'un espace homogène unifiant les objets qu'il contient et celle des propriétés régissant leur existence matérielle. La singularité des individus et des situations qui est si nette dans cette image se donne aussi à voir dans les enluminures du XVe siècle par la manière nouvelle dont des personnages réels sont portraiturés de façon à ce qu'on puisse les identifier sans équivoque, pour ceux qui les connaissaient à tout le moins. C'est le cas dans une remarquable enluminure réalisée vers 1412 par le maître de Boussicault. C'est un personnage qu'on a identifié comme, très probablement comme étant Jacques Cohen, C-O-E-N-E, un natif de Bruges, mais qui a eu un atelier en Bourgogne et puis à Paris. Un enlumineur qui a illustré un traité, outre le volume du maréchal de Boussicault qui lui a donné son nom, un volume qui est un traité donc de Pierre Salmon qui s'appelle « Réponse à Charles VII et lamentation au roi sur son état ». Et l'image représente Charles VI assis sur son lit d'apparat, son lit royal, en conversation avec l'auteur de l'ouvrage, donc le conseiller Salmon, tandis que trois grands du royaume assistent à la scène, dont au centre le duc de Berry. Alors, plusieurs choses frappent dans cette image, qui est à peu près contemporaine de la précédente, à quelques années près. D'abord, une construction perspective bien maîtrisée, même, évidemment, s'il ne s'agit pas encore de la perspective monofocale classique, pourrait-on dire, albertienne, que les peintres flamands ne commencent véritablement à maîtriser qu'un peu plus tard, au moins une cinquantaine d'années plus tard. La mise en perspective consiste ici à représenter l'espace à partir d'un point de vue subjectif qui deviendra le point de vue du spectateur, bien sûr, et donc à dépeindre des objets, non pas tels qu'ils sont réputés être en eux-mêmes, expression de qualité pérenne déterminée par une causalité uniforme, mais tels que ces objets apparaissent en relation les uns avec les autres à un moment du temps et sous le regard d'un observateur occasionnel. Pour reprendre la métaphore classique, l'image devient l'équivalent d'une fenêtre à travers laquelle un individu occasionnel contemple le spectacle du monde à l'insu de ceux qu'il observe. C'est un dispositif qui est rendu ici plus évident encore par la présence de la croisée ouverte en arrière-plan, laquelle permet au regard de traverser, en quelque sorte, d'une fenêtre à l'autre, toute la scène dans une ligne de fuite continue, moyen d'unifier l'espace en lui donnant de la profondeur. Ce traitement inédit de l'espace se note aussi dans la manière dont le maître de Boussicault situe ses personnages en différents points de la pièce, au lieu de les plaquer sur une surface plane. Elle se note aussi, il se note aussi ce nouveau traitement dans les variations finement nuancées de la lumière qui éclaire ces personnages et dans le traitement du ciel, qui est doté d'une amplitude et d'un réalisme absolument inédit par le fait d'éclaircir progressivement le bleu vers le bas. C'est la tombée de la nuit, les étoiles apparaissent déjà, et le ciel est représenté non pas comme c'était le cas auparavant, sous forme, comme avec une couleur continue, mais tel qu'on le voit, c'est-à-dire plus clair, à proximité de l'horizon. C'est, semble-t-il, la première fois que ce dispositif a été employé dans l'histoire de la peinture. Dernière nouveauté, enfin, c'est l'impression de singularité qui se détache des personnages, chacun avec sa physionomie et son attitude propre, chacun en interaction avec un ou plusieurs autres, jusqu'aux animaux qui jouent au pied du lit, chacun donc traité comme un individu saisi à un moment de sa trajectoire biographique, plutôt que comme l'incarnation d'une idée, d'un symbole ou d'un statut. Alors, c'est vrai qu'on connaissait des portraits attentifs aux singularités individuelles dès le XIVe siècle. Mais rarissimes sont ceux qui possédaient la force expressive que les peintres d'enluminure des premières décennies du siècle suivant ont su insuffler aux personnages qu'ils figuraient. On peut prendre l'exemple de ce portrait de Rodolphe IV d'Autriche, qui est mort en 1365 et qui est représenté ici dans une peinture anonyme avec le visage vu de trois quarts. Il s'agit, semble-t-il, du premier exemple préservé d'une disposition de ce type. Et évidemment, elle donne l'impression que le sujet est situé dans la profondeur d'un champ construit à la manière de l'espace réel, par contraste avec les représentations de face ou de profil, qui étaient donc les représentations de profil étant très courantes, beaucoup plus dominantes d'ailleurs, notamment au XIVe et même à la fin du XIIIe siècle, par contraste avec donc ces représentations qui aplatissent le visage et le réduisent à deux dimensions. Mais même dans cet exemple, il est manifeste que le visage est réduit à un catalogue de traits. Le regard est vague, il est dépourvu de vie intérieure. Alors c'est peut-être parce qu'il est possible qu'il ait été peint sur son lit de mort. Cela dit, il a quand même encore les yeux ouverts. Et il est placé en outre contre un fond uniforme qui isole le sujet de tout contexte. Bref, c'est véritablement à partir des premières années du XVe siècle que la peinture de l'âme humaine, de l'intériorité, commence à se déployer dans la maîtrise d'un art sui generis, l'art du portrait. Car finalement, si on entend par portrait une image figurant un ou plusieurs êtres humains ayant réellement existé, représentés de façon à ce que leurs traits individuels soient reconnaissables et destinés à être vus par eux-mêmes ou par d'autres, non pour être l'objet d'un culte, ni pour que leur présence soit commémorée ou pour que leur autorité soit symbolisée, mais pour ce dont témoigne leur personnalité en elle-même et pour autrui, alors, c'est un art qui ne commence véritablement à s'épanouir qu'en Europe au XVe siècle et tout particulièrement en Europe du Nord. Il y a sans doute eu des portraits qui répondaient en partie à cette définition dans l'Empire romain, tardif, mais durant une période qui n'a probablement guère excédé 3 ou 4 siècles, et selon une manière de figurer dont les inventeurs du portrait moderne, un millénaire plus tard, n'avaient pas de connaissance directe. Et pour mettre en évidence tout ce que la figuration de l'intériorité distinctive de chaque individu, de chaque humain, peut avoir de nouveau, avec l'avènement de l'ontologie naturaliste, dans la peinture européenne du XVe siècle, il faut donc faire un retour en arrière et se plonger un moment dans ce qu'on pourrait appeler la préhistoire du portrait. Je me bornerai évidemment ici à ce qui existait auparavant en matière de figuration des humains en Europe occidentale et sur le pourtour méditerranéen. Alors, il faut d'abord rappeler que le portrait n'était pas inconnu en Égypte ancienne, où l'image du pharaon figure sur les murs de son tombeau dès le Moyen Empire, c'est-à-dire de 1150 à 1780 avant Jésus-Christ, quoique sous une forme encore très stylisée, composée à partir d'un type générique représentant le modèle du souverain auquel on adjoint un attribut évoquant tel ou tel trait de ce souverain représenté là sur une fresque en particulier. Dans le Nouvel Empire, entre 1580 et 1080 avant Jésus-Christ, le portrait du pharaon est déjà plus individualisé et les images de ses fonctionnaires l'accompagnent dans son tombeau, reconnaissables à tout le moins par leur nom. Mais ces portraits devenus publics pour nous, qui allons visiter les tombes des pharaons ou qui voyons leurs effigies dans les musées, ces portraits n'étaient pas destinés à nos yeux, ni à ceux d'aucun autre vivant. Leur fonction était de préserver l'image du défunt en vue de ses pérégrinations après la mort et afin qu'il soit reconnu par les dieux et par les autres morts. Alors, d'autres images du pharaon étaient exposées, c'est vrai, à la vue de tous, sous forme de statues destinées à glorifier leur puissance, mais leur caractère monumental, comme le manque d'individualisation des traits, empêche d'y voir véritablement des portraits sculptés. Alors, on a certes noté des exceptions à ces deux fonctions de l'image humaine en Égypte, fonctions qui sont d'une part de conserver l'apparence des défunts dans la vie d'au-delà et d'autre part de célébrer la gloire du souverain. Et il s'agit de fresques de membres de la famille d'Akhenaton peintes sur les murs de son palais de Tel el Amarna au nord de Thèbes. Mais ces peintures semble tout aussi exceptionnel que ne l'était Akhenaton lui-même, que l'historien James Henry Breasted, qui est favorablement cité par Freud dans Moïse et le monothéisme, ouvrage, vous savez, qu'il fait une comparaison, enfin, Freud voit dans Akhenaton la source du monothéisme judaïque, appelle Breasted la première véritable individualité de l'histoire du monde. Alors, c'est une formule qui est assez connue, qui est assez méditerranéocentrique, hein, en tout cas, mais qui, concernant Akhenaton, n'est peut-être pas tout à fait inexacte. En Grèce ancienne, les deux modalités de figuration de la personne humaine déjà présentes en Égypte, les images funéraires d'un côté, les images de puissance de l'autre, s'accentuent et se diversifient. Les défunts sont représentés sur des stèles, sur des urnes, sur des sarcophages. Mais à la différence de ce qui se passe en Égypte, l'image du défunt permet à ceux qui lui survivent de garder le souvenir de son apparence et donc de le rendre présent par la mémoire. C'est une sorte d'aide-mémoire. Et cette fonction n'est donc plus, comme c'était le cas en Égypte, de préserver ses traits pour une existence post-mortem. Pour reprendre une distinction qui était proposée par Panofsky dans son ouvrage sur la sculpture funéraire, l'image des morts cesse d'être prospective pour devenir rétrospective. Dans ce dernier cas, le portrait est destiné aux proches dont il aiguillonne le souvenir et il doit donc être fidèle au prototype pour que la fonction remémorative puisse s'accomplir pleinement. Je rappelle que cette idée de l'image comme conservation de la présence des morts a été développée par Hans Belting dans son livre « Pour une anthropologie des images », j'en avais dit un mot ici il y a 3 ans déjà, comme une fonction en quelque sorte universelle à l'origine des images. J'avais fait remarquer à l'époque que c'est en effet quelque chose qui est très courant dans le monde méditerranéen, mais que dans bien d'autres régions du monde, la conservation de la mémoire des morts est au contraire systématiquement évitée, que donc ça ne peut pas être considéré comme un dispositif universel. Quant aux images de glorification publique, on est toujours en Grèce, elles concernent à présent évidemment non seulement les hommes d'État et les grands soldats, mais aussi ceux qui ont atteint la notoriété par d'autres moyens, les philosophes, les poètes, les orateurs, et ces figurations sont destinées à ceux qui n'ont jamais vu le modèle, et de sorte que ces images de grands hommes sont assez stylisés, dotés parfois d'accessoires typiques de la fonction représentée. Ils embellissent le prototype lorsqu'il est connu et elles sont empreintes, ces images, d'une expressivité d'autant plus grande lorsque l'on ignore les traits du prototype. Et cette dernière exigence, elle est en accord avec la tradition platonicienne qui veut que, finalement, le bon artiste ne doit pas seulement représenter le corps, mais il doit aussi représenter l'âme. C'est un précepte, évidemment, que l'on retrouve à la Renaissance, avec le néoplatonisme, et qui va durablement affecter la manière dont le naturalisme figure l'intériorité. Mais dans l'Antiquité grecque, cette injonction d'avoir à peindre l'âme ne s'applique pour l'essentiel qu'aux portraits commémoratifs et aux représentations de modèles civiques, car si les peintures ordinaires de personnes ordinaires ne sont pas inconnues, elles semblent n'avoir été guère communes et concernaient la plupart du temps des modèles qui, sans avoir véritablement été des personnages publics, n'en étaient pas moins des personnes honorablement connues, disons, à qui l'on souhaitait rendre hommage. Et ces prémices timides d'individualisme ou d'individuation étaient renforcées aussi par l'individuation des peintres, puisque certains d'entre eux, tels Polygnote, Zeuxis ou surtout Apelle, jouissaient d'une considérable célébrité. À Rome, les fonctions commémoratives et glorifiantes du portrait se maintiennent, mais un genre de portrait nouveau y apparaît aussi, dans lequel le commanditaire ne semble rien désirer d'autre que, finalement, de jouir du plaisir de se contempler en image, parfois accompagné de ses proches. Ainsi en va-t-il de cette célèbre fresque dépeignant le boulanger Terentius Néo et son épouse dans l'atrium de leur maison à Pompéi. C'est une peinture qui est datée entre 40 et 75 après Jésus-Christ et qui est considérée par certains comme le premier portrait européen moderne qui ne soit parvenu intact. Cette dimension contemplative et presque hédonique du portrait profane témoigne d'une attention et d'un respect nouveau accordé aux individus, une manière d'éloge de soi-même qui semble dire « mon visage mérite d'être contemplé pour ce qu'il est en soi et non pour ses qualités allégoriques ou pour l'autorité qu'il représente ». Toutefois, l'ensemble plus important de portraits individuels qui nous soient parvenus de l'Antiquité est ce que l'on appelle les portraits du Fayum. C'est un ensemble d'à peu près 1 millier d'images qui sont peintes à l'encaustique sur de la toile entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, dans ce qui était à l'époque la province égyptienne de l'Empire romain. Alors, on les appelle portrait du Fayoum parce qu'on en a trouvé beaucoup dans l'oasis du Fayoum, mais en fait on en a trouvé dans bien d'autres endroits en Égypte. En voilà un bon exemple. Il tient, c'est un, le, donc le personnage tient un verre et une guirlande à la main, donc une attitude, probablement un verre de vin, donc une attitude assez profane. Et ces portraits figuraient un mort et étaient cousus sur des momies. Il s'agit donc en apparence d'un portrait funéraire classique, du type prospectif, pour reprendre la terminologie de Panofsky, c'est-à-dire dont on s'efforce de préserver l'apparence en vue de sa vie post-mortem au royaume des morts. Or, il semble en fait qu'avant d'être cousus sur des momies, ces portraits aient été exposés dans la maison, à la manière romaine. Certains d'entre eux, en tout cas, puisqu'on a retrouvé des cadres, ce qui expliquerait notamment que tout en étant d'un réalisme saisissant, ils dépeignent une personne plus jeune que les momies qu'ils accompagnent. On les faisait donc très vraisemblablement du vivant de la personne sur le motif. C'était probablement des artisans grecs qui les faisaient, des artistes si vous voulez, mais c'est plutôt à l'époque considéré comme des artisans. Raison pour laquelle ils donnent le sentiment, ces portraits, d'une présence individuelle très marquée, sentiment renforcé évidemment par la convention de représenter les yeux beaucoup plus grands qu'ils ne le sont en réalité, un peu la manière des mangas japonais, et fixant le spectateur dans les yeux. Même si très peu d'exemplaires nous sont parvenus, il semble donc, qu'à côté du portrait funéraire et du portrait glorifiant, qu'une tradition du portrait individuel a existé dans la civilisation romaine, qui ne visait ni à commémorer un défunt, ni à honorer un personnage public, mais à dépeindre des gens ordinaires, reconnaissables par des traits de leur physionomie. On peut supposer en outre que les motivations des commanditaires n'étaient guère différentes de celles que l'on reconnaît dans l'art du portrait moderne, c'est-à-dire célébrer la singularité d'un individu ou d'un couple, s'appréciant lui-même et souhaitant se distinguer aux yeux d'autrui. Ces images, notamment celles du Fayoum, conservent néanmoins un aspect hiératique et figé, qui est une probable réminiscence de leur fonction originelle comme, et finale aussi d'ailleurs, comme portrait funéraire, et qui vient au premier chef de contours très accentués et de l'absence de toute figuration d'un décor ou d'un environnement. Les visages et le haut du buste, qui sont parfois animés d'un très léger contrapposto, c'est-à-dire d'un changement d'axe, se découpent sur une surface plane et unie, souvent dorée, un peu comme une photo d'identité. On en a ici un bon exemple avec le contrapposto qui donne un peu de profondeur avec le changement du buste. On remarquera qu'ici, c'est un tondeau, c'est-à-dire c'est une plaque circulaire qui n'était probablement pas cousue sur une momie. Peut-être avait-elle une fonction commémorative, mais en tout cas, dans la mesure où les deux frères sont conjoints dans cette image, il ne s'agissait pas spécifiquement d'un portrait. Il s'agissait d'un portrait commémoratif, puisqu'on voit là les divinités qui les accompagnent au royaume des morts. Mais cela dit, le portrait a probablement été utilisé peut-être dans un autre contexte avant ou après qu'un contexte funéraire. Donc c'est la singularisation, si vous voulez, qui, dans ce genre de portrait, c'est la singularisation d'un individu au sein d'un type qui est visé. Non, la mise en scène d'une personne dans un milieu de vie familier qui prolonge cette personne et lui donnerait une partie de son particularisme. Donc souci de soi, désir de distinction, signal dans ce que l'on pourrait appeler le portrait profane antique, dont il nous reste encore une fois quelques exemplaires, les prodromes d'une expression publique de la singularité individuelle des personnes humaines, on a un exemple tardif, qui ne commencera pourtant à s'épanouir dans toutes ses dimensions qu'un millénaire plus tard, avec la redécouverte du portrait dans les Flandres et en Italie, pour ne plus ensuite connaître d'interruption jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un exemple intéressant parce qu'il est tardif, c'est sur un parchemin. Et à l'évidence, ça n'est pas c'est un portrait commémoratif funéraire, mais on ne sait malheureusement pas grand-chose sur ce portrait, qui est l'un des plus tardifs faits dans ce style, parce que à partir du IVe siècle et jusqu'au XVe siècle, la christianisation a progressivement, pendant un millénaire, rétabli l'hégémonie des images cultuelles et non plus profanes par le biais des icônes. Comme l'écrit Hans Belting dans son grand livre Bild und Kult, Images et Culte, je le cite, l'icône est une image peinte antique qui a survécu à la société antique. Elle devient de la sorte l'héritière universelle du tableau antique. Et cet héritage se développe dans les deux genres majeurs de la figuration humaine déjà présents dans l'Antiquité, l'image funéraire, commémorative, devient image de saint, tandis que l'image glorifiant l'empereur demeure une image impériale à laquelle se substitue parfois ou qu'accompagne l'image du Christ-Roi. Dans tous les cas, le portrait profane, les quelques éléments que nous avons pu en voir dans l'Antiquité, cède le pas à des représentations cultuelles de personnages de l'histoire sacrée, des souverains chrétiens et des saints, objets d'une vénération publique ou privée. Et le passage du portrait d'un défunt ordinaire au portrait d'un saint fut possible, car le christianisme admettait que l'on érige une image mémoriale sur la tombe d'un mort. La transformation de cette image en une image cultuelle dépendant donc de la personne du mort, de son statut, de ses accomplissements, et non de modalités particulières de sa représentation, puisque les conventions figuratives étaient à peu près identiques pour tous les portraits de mort. On en voit ici un exemple, donc une momie, un portrait de momie du Fayoum, et à droite, bien plus tard, mais pas très loin, dans le couvent du Sinaï, une icône de l'apôtre Philippe, et on voit bien que les mêmes conventions de représentation sont en usage dans l'une et l'autre, dans l'un et l'autre de ces portraits de mort commémoratifs. Par ailleurs, on ne peut pas dire que l'auréole, le nimbe, soit l'apanage des saints, puisque certaines images de saints en sont dépourvus, tandis que des portraits de défunts ordinaires, mais qui étaient réputés pour leur piété ou pour leurs œuvres, en sont pourvus. C'est le cas, par exemple, de ces deux images. L'évêque Abraham, qui était un personnage réputé pour sa dévotion, est pourvu d'un nimbe, et saint Marc n'en a pas. Ils sont tous les deux de la même époque. De la sorte, un personnage particulièrement estimé de son vivant pour ses vertus chrétiennes était honoré après sa mort par ceux qui l'avaient connu, un culte de son image et de ses vertus votives se développant ainsi jusqu'à aboutir à une vénération publique. Et si le portrait funéraire de l'Antiquité annonce déjà les buts et les formes de l'icône, c'est que ce portrait tend dans certains cas, ou penche dans certains cas, tantôt vers l'image commémorative, laquelle exige le réalisme mimétique, puisque les vivants doivent le reconnaître, tantôt vers l'image héroïsée, qui demande l'idéalisation. Et on a des cas d'images héroïsées, y compris dans les peintures du Fayoum, c'est le cas de celle-ci, elle porte en effet littéralement les lauriers. Donc l'image mimétique, l'image commémorative, concerne la vie temporelle et individuelle du mort. L'image héroïsée concerne son existence intemporelle à laquelle seul le culte peut s'adresser. C'est pourquoi l'aspiration à la ressemblance s'atténue dans la peinture de l'icône et donc s'atténue aussi la volonté de figurer la singularité individuelle de tel ou tel saint par des attributs physionomiques au profit de la figuration idéalisée de son statut suprasensoriel comme dispensateur de grâce et dispensateur de protection. Quant à la vénération dont l'image du Christ devient l'objet, à l'instar de celle de l'empereur, elle a été justifiée dès le Concile de Nicée, c'est-à-dire au 8e siècle, par l'argument que ce que l'on honorait dans le portrait de l'empereur, ce n'était pas l'image, mais la personne même du souverain qu'elle représentait, et qu'il en allait de même avec l'image du sauveur. Je ne vais pas rentrer ici dans la querelle des iconoclastes et des iconodules, parce qu'elle ne concerne pas directement notre sujet. Mais en tout cas, on reconnaît très tôt qu'il y a une différence entre l'image et ce qu'elle symbolise. Donc l'empereur et son image ont joui à Byzance, au moins jusqu'au XIe siècle, d'un traitement rituel qui était hautement codifié, l'image étant à la fois le symbole de la souveraineté impériale, à la manière des photos du président de la République qui ornent nos édifices publics, mais aussi étant la présence incarnée et le substitut agissant du souverain. Et l'atteinte à l'image de l'empereur était un crime de lèse-majesté analogue à une atteinte à sa personne même. L'image impériale avait en outre une fonction militaire. Les armées marchaient à la bataille derrière un bouclier à l'effigie de l'empereur, fixé sur un étendard. Et bientôt, ce fut un bouclier à l'effigie du Christ et attaché à une croix qui servit à guider les troupes vers la victoire. Alors, l'icône est certes héritière du portrait cultuel antique, funéraire d'un côté, impérial ou de puissance de l'autre. Donc que ce portrait soit commémoratif ou glorifiant, mais l'icône pousse au paroxysme les traits caractéristiques du portrait antique. Le parti pris de la frontalité renforce le face-à-face entre l'image et celui qui s'adresse à elle. La stabilité des types iconographiques restreint l'interprétation dans un champ bien délimité, et la faible inventivité esthétique, il faut bien le reconnaître, fait passer au second plan l'agence de l'artiste, de toute façon anonyme, afin que l'image ne soit plus finalement qu'un déclencheur de vision et l'instrument d'une dévotion intime. Comme l'a écrit Gilbert Dagron dans la monographie qu'il a récemment consacrée au portrait iconique, sous le titre « Décrire et peindre », je le cite, « Dans l'Orient chrétien, les critères de ressemblance devinrent moins importants que ceux de vérité. L'individualité s'effaça derrière le genre. Pour éviter d'être mensongère, l'image dut coïncider aussi parfaitement que possible avec sa signification. Le portrait devint désignation. En outre, et comme Dagron l'a justement fort bien mis en lumière dans cet ouvrage, faire des images avec les mots, c'est-à-dire décrire, et faire des images peintes, figurées, sont dans le monde byzantin plus qu'en Occident deux aspects complémentaires et solidement associés d'une même fonction imaginative. Et cette complémentarité entre les images peintes et les images créées au moyen du langage s'opère au premier chef à travers deux genres qui sont hérités de la rhétorique antique, l'ekphrasis, c'est-à-dire une description littéraire qui dépeint la réalité à la manière d'une image, et l'eikonismos, qui est un portrait en mots visant à décrire le plus précisément possible une personne. Je vais vous en donner deux exemples. Un exemple d'ekphrasis, c'est la description du martyr Gordius au moment où il pénètre dans l'amphithéâtre, faite par Basile de Césarée à la fin du IVe siècle. Vous imaginez le spectacle, il est poussé au milieu de l'arène, la foule est là dans l'amphithéâtre, et la description est la suivante. Cet homme, d'aspect sauvage, garde sur son visage ravagé les traces d'une retraite prolongée dans les montagnes, sa barbe est longue, son vêtement sale, tout son corps est desséché, il porte un bâton et une besace, mais tout cela a été relevé par je ne sais quelle grâce qui était le reflet de son âme. Donc ça, c'est un exemple d'ekphrasis. Exemple d'eikonismos, qui est une description de l'apôtre Pierre par Malalas au 6e siècle. L'apôtre Pierre, vieux, taille moyenne, front dégarni, cheveux courts, cheveux et barbe tout blancs, peau blanche tirant sur le jaune, yeux couleur de vin, ça c'est marron foncé, belle barbe, long nez, sourcils se rejoignant, se tenant bien droit, intelligent, prompt à la colère, changeant facilement d'avis, timoré. Le Saint-Esprit parle par sa bouche, il fait des miracles. La différence entre les deux registres saute aux yeux. L'ekphrasis vise à émuler le portrait peint en usant de mots recherchés et de métaphores, en situant le personnage dans son contexte et dans son histoire, en suggérant une image que le lecteur est invité à reconstituer en esprit. Tandis que l'eikonismos est une technique permettant de dresser le portrait robot d'une personne en puisant dans un lexique descriptif d'une centaine de termes, qui a d'ailleurs été utilisé de façon très systématique, par exemple par les magistrats lorsqu'ils voulaient donner le signalement d'un esclave fugitif, par les notaires lorsqu'ils voulaient authentifier la signature d'un illettré en signalant quelques traits caractéristiques de son apparence physique, a été utilisé aussi par les historiens pour évoquer des personnages du passé, notamment évidemment ceux de l'histoire sainte. Des recueils de descriptions en mots furent constitués en suivant les préceptes de l'eikonismos, et ils se transformèrent tout naturellement en manuels de peinture qui, au début de la peinture des icônes, spécifièrent de façon précise les codes iconographiques pour chaque prototype représenté. On a encore des descriptions pour chacun des saints, enfin pour de très nombreux saints, en tout cas pour les apôtres, etc. Et de cette association originelle avec la description langagière, entre la peinture et la description langagière, le portrait iconique a gardé d'une façon d'atteindre l'individualité, non pas, comme ce sera le cas à partir de la Renaissance, au moyen d'une série de traits qui constituent une saisie d'ensemble de ce qui fait la singularité d'une personne, la combinaison des traits du visage, du port de tête, du regard, des sentiments que le mouvement de la bouche laisse transparaître, un sourire plus ou moins esquissé, etc., mais par une accumulation de caractéristiques standardisées. Et l'icône est ainsi ce que André Grabar, dans Les voies de la création en iconographie chrétienne, appelle un portrait typologique, à savoir l'image d'une personne obtenue par approximation successive et de plus en plus fine à partir de types prédéfinis, puisant dans un répertoire d'attributs physiques standardisés, de caractéristiques morales tout à fait standardisées aussi, de catégories professionnelles, etc. Donc l'individu est appréhendé selon ce dispositif de manière taxinomique, comme un membre individualisé d'un groupe, comme un spécimen d'une catégorie ou d'une espèce, même si cette catégorie ou cette espèce est calculée si étroitement qu'il en est l'unique représentant. Donc même s'ils n'ont pas été conservés, très rares portraits profanes de l'Orient chrétien n'échappent sans doute pas à cette identification typologique de l'individu. On nous dit par exemple que lorsque l'empereur Héraclius apporta au Khagan des Avars un portrait de sa sœur qu'il souhaitait lui faire épouser, on peut supposer que ce portrait, bien qu'il représentât une personne réelle, était plus générique que réaliste. Alors, c'est au XIVe siècle que la transition au portrait moderne commence à s'amorcer, mais je crois qu'il est déjà 3h02, et donc je vais poursuivre sur cette période lors de la prochaine leçon.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.